France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Drogue consommée, portable confisqué, nouvelle mesure du gouvernement pour lutter contre le trafic de drogue, les consommateurs dans le viseur. Explication à suivre alors que les autorités annoncent deux coups de filet ces dernières heures à Marseille en Guadeloupe. À suivre encore l'avenir de la sidérurgie en question après l'annonce de plus de 600 suppressions de postes en France par ArcelorMittal. Faut-il nationaliser ces sites? Nous poserons la question à notre invité, le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Nous verrons également comment les Britanniques ont agité cette menace avec succès. À la une encore, Kiev à nouveau sous les bombes russes la nuit dernière. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Alors qu'un plan de cessez-le-feu américain se dessine.
Oui, sur proposition donc des États-Unis, mais un plan qui ferait la part belle aux Russes.
Et nous parlerons avec vous de ce plan américain. À suivre encore, la menace de grève qui se confirme à la SNCF pour le week-end du 8 mai, négociation dans l'impasse. Le groupe Meta, Facebook notamment, qui veut utiliser vos données pour alimenter son intelligence artificielle. Et puis le Sud-Ouest, qui a toujours les pieds dans l'eau, Gironde et Charente-Maritime en alerte orange en raison des crues. En Dordogne, des campings inondés craignent maintenant pour leur saison.
Là, on a quand même une terrasse qui est décalée de 3 mètres. Hein. Elle a bougé avec l'eau. Elle n'est plus en face de son mobilo. Il y a des choses qui visuellement aujourd'hui paraissent bien, mais qui seront moins jolies dans quelques jours. Qui dit humidité, dit gonflement du bois et éventuelle moisissure.
Reportage dans quelques minutes. Et puis à partir de 13h30, on parle vacances et hébergement avec un acteur français historique. C'est Gîtes de France qui fête ses 70 ans cette année, mais qui a fort à faire face aux géants du secteur. Et vous, quel hébergement à votre préférence? 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h50, c'est la France. La consommation de viande de bœuf recule, nous dira Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Et puis, juste avant 14h, dans C'est une chanson, Clément Viktorovitch, Aurel San et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
5 millions de Français ont consommé du cannabis en 2023. Cela fait donc potentiellement beaucoup de personnes concernées par cette mesure. Les consommateurs de drogue interpellés verront désormais leur téléphone portable confisqué par les forces de l'ordre. Cela vaut pour toutes les drogues et les dealers sont aussi dans le viseur. La loi le permet, rappelle ce matin le ministre de la Justice Gérald Darmanin qui fait cette annonce. Il s'agit en fait de généraliser à tout le pays une expérimentation qui est en cours en ce moment dans les Pyrénées-Atlantiques. Initiative du procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier.
Ce que je souhaite mettre en place à compter de ce mois, c'est la saisie et la confiscation systématique des smartphones des usagers de stupéfiants dès lors qu'il est établi en procédure que ce téléphone portable a été utilisé dans la relation entre l'usager et son vendeur. Je l'assume pleinement dans la mesure où, vous le savez, de plus en plus souvent, le trafic de stupéfiants utilise des réseaux cryptés, des moyens de communication, ce phénomène qu'on appelle Ubersheet ou Ubercoke. Eh bien, je pense qu'il est de bonne politique de frapper là où ça fait mal et de saisir ses téléphones portables, ses smartphones.
Le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, au micro d'ici Pays Basque. Le consommateur ciblé donc, tout comme les trafiquants, avec ce coup de filet annoncé ce matin à Marseille. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
21 interpellations. Le ministre de l'Intérieur dit que ce sont de hauts responsables qui sont tombés.
Oui, Bruno Retailleau affirme que ce sont des trafiquants de drogue du haut du spectre, comme disent les enquêteurs des stupes, qui ont été interpellés ce matin ou extraits de leurs cellules en prison. Et parmi les 21 suspects placés en garde à vue, qu'il y aurait plusieurs lieutenants d'un très gros trafiquant de la cité de la Castellane, Mohamed Djea, plus connu à Marseille sous le surnom de Mimo, trafiquant arrêté à Oran en Algérie l'année dernière. Un groupe criminel qui pèserait autour de 10 millions d'euros. C'est en fait le deuxième coup de filet en l'espace de 15 jours contre le réseau Mimo. Après une opération dans une villa conspirative près de Marseille, ce sont 520 kilos de cannabis qui avaient été saisis il y a deux semaines et surtout 4 AR-15, 4 fusils d'assaut, les nouvelles versions des M16 fabriquées aux États-Unis. Ce sont donc toutes les branches d'un réseau marseillais tentaculaire qui tombent les unes après les autres. L'enquête initiale remonte à plus de 2 ans et demi selon nos informations autour de liens entre ce réseau marseillais et les principaux trafiquants européens, notamment la mocromafia.
D'un mot, Emmanuel, toujours dans la lutte contre la drogue, importante saisie en Guadeloupe.
Ah oui, là c'est une première, on n'est plus sur des mules ou des envois de colis par la poste, mais des dizaines de pains de cocaïne dissimulés sous un chargement de condiments embarqués dans un avion cargo en direction d'Orly. L'enquête des douanes remonte à plusieurs mois. Pour l'instant, le réseau capable de monter une telle opération n'a pas été démantelé, à faire confier à la juridiction interrégionale spécialisée en Martinique.
Et précision signée Emmanuel Leclerc. Le ministre de l'Intérieur, lui, ce matin, Bruno Retailleau, a profité de son passage à Marseille pour critiquer la décision du tribunal administratif de Lille de rétablir hier le contrat entre l'État et le lycée musulman Averroès. C'est un revers pour l'État. Bruno Retailleau se dit favorable à un appel, mais c'est au ministère de l'Éducation nationale d'en décider. La France, qui a aussi été condamnée ce matin par la Cour européenne des droits de l'homme, elle estime, cette Cour, que la justice française a échoué à protéger trois mineurs victimes de viols. Elles avaient tenté de faire condamner leurs agresseurs. La justice française ne les avait pas suivies. Elles avaient ensuite saisi la CEDH. Y aura-t-il des trains pour le pont du 8 mai en France? La tendance n'est clairement pas à l'optimisme du côté de la SNCF. Deux syndicats, CGT Cheminots et Sudrail Plus, un collectif de contrôleurs, appellent à la grève pour plus de visibilité sur les plannings et puis, autre revendication, des hausses de salaire. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour Jérôme.
La SNCF présentait ce matin ses nouvelles rames Ouigo. Vous avez assisté à cette présentation, mais est-ce que vous avez d'abord des informations sur cette grève ?
Pour le moment, Jérôme, les discussions n'ont pas repris. Depuis un rendez-vous entre la direction et les syndicats hier, rien n'en est sorti pour l'instant. Alain Krakowicz, le directeur de TGV Intercité, affiche tout de même de l'optimisme pour la suite.
Les réunions continuent sur cette question des plannings. Et donc, voilà, on a bon espoir qu'effectivement, les avancées qu'on fait sur ce sujet-là, le sujet aujourd'hui, c'est les discussions pour éviter cette grève.
L'organisation des plannings des cheminots pose problème et les syndicats demandent également une hausse de 100 euros de la prime de travail. Dans les coulisses, il n'y a pas encore de nouvelles dates de réunion avancées, affirme une source syndicale. Les négociations sont au point mort, nous dit-on, et on renvoie la balle dans le camp de la direction. Pour le moment, on se dirige donc vers une grève d'ampleur, affirme un syndicat pour le pont du 8 mai.
Mathieu, la présentation de ces nouveaux Ouigo a donc été un peu éclipsée.
Oui, mais il y a de grandes ambitions pour ce low cost à la française. Déjà, plus d'espace dans ces nouvelles rames avec de nouveaux sièges, explique Sandra Thor, responsable matériel chez Ouigo.
On a 644 places dans une Ouigo actuelle, c'est 634 en salle et 10 places sur des banquettes. Là, vous remarquez déjà qu'on n'a plus de banquettes, hein, on a des bagageries. Dans ces rames-là, on a réussi à mettre 653 places.
L'enjeu, c'est d'avoir du monde. Dans ces trains, il faut 85% de remplissage pour de la rentabilité, alors que de nouvelles liaisons vont voir le jour, explique Jérôme Lafont, directeur de Ouigo, au menu Montpellier et la Côte Basque.
Nous, on souhaite pas faire du low cost au rabais, mais les attentes des clients, elles ont aussi évolué, parce que Ouigo s'est développé aussi sur de plus en plus de destinations qui sont assez longues. Et les rames Ouigo nouvelle génération vont répondre très très bien à cette attente.
Une peau neuve donc, un espace relax, des prises électriques pour tous les sièges et un design repensé, moins de rose flashy et un bleu plus discret. Véronique et Patrick, habitués de la ligne Paris-Lyon sur le Ouigo, découvrent cet espace flambant neuf.
C'est bon marché et c'est convenable quoi.
C'est correct quand on paye 70 euros à deux pour l'aller-retour. Bah, je trouve que on a un service qui est quand même d'un bon rapport qualité-prix.
Il y aura un renouvellement des rames pendant les 4 prochaines années et Ouigo augmente même la voilure. 38 trains aujourd'hui, 50 d'ici 2027.
À condition que ces trains circulent, évidemment. Merci Mathieu Bonnour en direct de la gare de Lyon à Paris avec les moyens techniques de Nicolas Mathias en gare de Tours. La circulation sera à nouveau normale à partir de lundi. La gare est paralysée depuis le 29 mars et l'incendie d'un poste d'aiguillage. Le rail, c'est l'acier. Et voilà qui nous amène à la situation de la sidérurgie en Europe. 100 000 emplois perdus depuis 2008, 30% de production en moins dans l'Union. Et ça se poursuit. Dernière annonce en date, ArcelorMittal et ses 636 suppressions de postes. En France, pas uniquement des fonctions support, comme on dit. La production est également touchée. 7 sites concernés au total, dont 4 en région Hauts-de-France. Son président Xavier Bertrand sera en ligne avec nous dans un instant. Avant cela, allons voir comment nos voisins britanniques viennent de gagner leur bras de fer avec un géant chinois de l'acier qui voulait supprimer 3000 emplois. Bonjour Laura Calmus.
Bonjour.
Correspondante d'Inter à Londres, les députés britanniques ont voté une loi pour prendre le contrôle de cette entreprise. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Eh bien, tout commence fin mars, lorsque le propriétaire chinois Jinjai annonce la fermeture des deux hauts fourneaux au nord de l'Angleterre à Scunthorpe, jugé non rentable. Londres refuse alors ce scénario avec un vote au Parlement le 11 avril dernier pour forcer British Steel à maintenir son activité. Résultat, deux administrateurs provisoires sont nommés, les négociations de licenciement stoppé net et les fourneaux sauvés in extremis grâce à un approvisionnement en matières premières sécurisées. British Steel abandonne alors son projet de licenciement qui menaçait 2700 emplois. Une victoire pour les syndicats qui réclament désormais la nationalisation pure et simple. Mais cette affaire a aussi ravivé les tensions avec la Chine. Le ministre britannique du Commerce l'admet. Nous nous sommes trompés en autorisant ce rachat en 2020 alors qu'un gouvernement conservateur était au pouvoir. L'objectif du gouvernement est désormais de trouver un partenaire privé pour l'entreprise. Mais une nationalisation est également envisagée.
Bonjour Xavier Bertrand.
Bonjour.
Président Les Républicains de la région Hauts-de-France, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que cette solution pour la sidérurgie française, prise de contrôle ou nationalisation de ces sites, certains élus, y compris à droite, le demandent, est-ce une piste que vous soutenez ?
Non, la vraie piste, c'est qu'effectivement l'Europe se réveille et que l'Europe ne laisse pas la confrontation pour l'acier entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Après, depuis des années où on a mis les bâtons dans les roues de l'industrie, il serait temps maintenant de changer complètement de philosophie. Soit c'est l'effacement de l'Europe, soit on tient notre place. Parce que bon, bien évidemment, il y a la Haute-France, il y a la France, il y a aussi la Belgique, il y a aussi l'Espagne. C'est un enjeu véritablement européen. Vous savez, c'est pas demain la veille qu'on va faire des voitures en plastique, des avions en plastique ou des trains en plastique. On a besoin d'acier. Cet acier, on le produit en Europe ou on le produit pas en Europe? C'est ça la question qui est posée.
Mais concrètement, maintenant, comment agit-on? Comment l'Union européenne agit? Il s'agit de donner, de subventionner?
Non, attendez,
comme on l'a
déjà
fait il y a deux ans pour ArcelorMittal, 300 millions d'euros d'aide publique en 2023.
Bon, déjà, la première des choses, c'est que chacun dise la vérité. Est-ce que l'État est prêt à financer la décarbonation pour permettre des investissements d'ArcelorMittal en France ? Est-ce que l'Union européenne, après des années de tracasserie vis-à-vis de l'industrie, d'amendes sur l'industrie, on change complètement de cap et on aide l'industrie et on garde nos emplois ? Et est-ce qu'Arcelor, dans ces conditions-là, arrête de gagner du temps et dit très clairement qu'ils vont investir justement en Europe, en France et dans les Hauts-de-France? Et pour ça, on va arrêter les parlottes. Moi, j'exige aujourd'hui qu'il y ait une table ronde avec toutes les parties prenantes, les élus locaux également et les partenaires sociaux, et qu'Arcelor nous dise « j'ai les garanties de l'État, j'ai les garanties de l'Europe, ok, j'y vais et j'investis durablement ». C'est ça le véritable enjeu qui est posé aujourd'hui.
Même vous mettez en doute, Xavier Bertrand, la promesse de l'État, 850 millions d'euros d'aide pour la décarbonation du site de Dunkerque. Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, a réitéré cette promesse hier.
Écoutez, j'ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'il fallait que tout le monde joue carte sur table. Si l'État est prêt à faire, si l'Europe est prêt à faire, alors qu'est-ce qu'attend ArcelorMittal? C'est ça aujourd'hui la véritable question. Mais avant, j'ai aussi une autre question. J'ai des centaines de salariés qui vont perdre leur boulot. Et déjà, ces salariés, Arcelor doit les respecter parce que derrière, ça va être nous, avec l'État, de trouver des solutions pour qu'ils retrouvent du travail. Et pas des gens qui ont vocation à rester sans boulot. Ils ont un savoir-faire. Ils ont donné pour cette entreprise. Maintenant, il y a ces salariés-là. Et puis, il y a aussi les autres, les milliers qui restent, ou très clairement, moi, j'ai pas envie d'avoir un effondrement de l'industrie et de l'industrie de l'acier en Europe et dans ma région. C'est ça le véritable enjeu. Et si on veut que chacun joue carte sur table, faut mettre tout le monde autour d'une même table et qu'on dise très clairement, maintenant, on y va.
Précisément sur cet avenir, ArcelorMittal va-t-il rester en France? Posons la question. Je vous propose d'écouter la réponse de Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'Industrie. C'est un think tank qui réfléchit sur ces questions industrielles.
ArcelorMittal, il est face au problème suivant, c'est-à-dire que rester en France ou en Europe aux conditions actuelles des politiques climatiques, qui d'une part fixent un prix du carbone, mais qui laissent le marché se débrouiller, il n'a pas d'autre choix que de se décarboner. Or, quand il se tourne vers les alternatives, notamment l'électrification et le passage à l'hydrogène, eh bien le prix d'électricité rend l'équation impossible. Et donc, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, ArcelorMittal doit choisir entre partir et mourir.
Aux conditions actuelles, ArcelorMittal doit quitter l'Europe. Vous validez cette analyse, Xavier Bertrand?
Ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que les conditions doivent changer. Il faut qu'on arrête justement tout ce système où on met des normes quasiment que pour pénaliser ceux qui sont en Europe et où les autres justement font leur business à eux. Je vous l'ai dit, ça peut pas être Chine et États-Unis. Donc la question très clairement aujourd'hui, est-ce que l'Europe change d'attitude? Moi j'ai vu Stéphane Séjourné en tête à tête. Voilà de ça maintenant 2 semaines où il m'a confirmé, il m'a assuré que l'Europe était prêt à faire. Or, il faut que toute la Commission suive ça et que ça s'enclenche maintenant, pas dans un siècle. Moi j'ai besoin de visibilité pour les milliers et milliers d'emplois qui sont dans ma région. J'ai besoin de visibilité là dans le trimestre qui vient. Pas dans l'année qui vient, pas dans la décennie qui vient, dans le trimestre qui vient. Il faut se battre pour que les centaines qui ont perdu leur emploi trouvent du boulot ailleurs, mais que les milliers d'autres puissent garder leur travail. C'est pour ça que je me bats. Vous savez, j'ai pas fait venir les usines de batteries électriques pour perdre effectivement ce qui me reste de sidérurgie. Moi, je veux garder les deux. Hein.
Merci Xavier Bertrand d'avoir été avec nous en direct dans ce 13-14. Président Les Républicains de la région Hauts-de-France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
J'ai passé toute ma vie à effacer ce nom, à en changer. Voilà comment Hélène Perland, la fille de François Bayrou, a débuté son témoignage ce matin sur Inter pour expliquer le long chemin qui l'a mené des années 80, son passage à tabac par un père de Notre-Dame de Bétarame, à aujourd'hui sa prise de parole dans un livre, des années de silence avant de se décider à parler sans en avertir son père.
Je voulais me faire recenser comme victime, vous dire j'en suis de Bétarame, je vais pouvoir parler avec eux, victime quelconque, une parmi d'autres, et fille du Premier ministre. Ce que je veux dire aussi, voilà, c'est qu'il y a cette envie de répondre. J'entendais tellement de gens écrasés par l'idée que les fameux pseudo-notables auraient consenti à ce qu'ils soient battus ou violés, sous prétexte, il y a eu une phrase terrible, que leurs enfants seraient d'une autre texture que les autres. Cette phrase, elle m'est restée en travers de la gorge, et j'ai envie de leur dire, on se libère du poids, nous, de croire enfants notables, et je veux dire à l'Assemblée, enfants de députés, dans ma promo, nous sommes deux, et j'ai l'autorisation de l'autre de dire à l'Assemblée, 100% des enfants de députés à Bétarame ont été ou tabassés ou violés. Nous, nous avons cru que les autres toléraient à notre passage à tabac parce qu'on était les notables qu'il fallait se faire. Eux ont cru qu'on consentait à leur passage à tabac, à leur viol, parce qu'ils ne comptaient pour rien dans la société. J'ai envie de leur dire ça, on est tous victimes, tous à égalité.
Le témoignage d'Hélène Perland ce matin sur Inter que vous retrouvez sur franceinter.fr. Alors les faits de violence physique et sexuelle qui concernent cet établissement de Bétarame vont des années 50 aux années 2000, mais d'autres établissements catholiques sont visés par des accusations plus récentes. C'est le cas du directeur du lycée catholique Notre-Dame d'Espérance. Nous sommes à Saint-Nazaire. Ce directeur est suspendu pour des comportements inappropriés sur des lycéennes à l'occasion d'un voyage scolaire à Paris mi-mars, ce qu'il nie. Bonjour Hélène Roussel.
Bonjour Jérôme.
De nos confrères d'ici Loire-Océan, c'est vous qui avez révélé cette affaire il y a un mois et vous avez pu, Hélène, lire le courrier de signalement que les enseignants accompagnateurs du voyage ont envoyé au rectorat.
Oui, dans cette lettre, les profs racontent leur soirée du 18 mars où le directeur les rejoint à l'hôtel et leur dit avoir aidé avec son passe quelques élèves à ouvrir leur chambre. Mais plus tard, il tombe sur des adolescentes en pleurs, tremblantes. Elle parle d'intrusion. Il m'a confisqué mon téléphone, l'a mis dans sa poche, m'a dit de venir le chercher si je voulais le récupérer. Un premier témoignage comme un déclencheur. Caresse sur les épaules, les hanches, poitrine effleurée. Nous apprenons, écrivent les profs, que des internes au lycée consignent ces intrusions. Joint au courrier, 6 lettres de lycéennes écrites à la main sur des bouts de cahier. Extrait. J'étais assise, il m'a frotté le cou avec sa bouche en me chuchotant. T'es toute seule ? Ou encore, monsieur le directeur m'a dit à plusieurs reprises, je vais te mettre des fessées. Ce soir du 18 mars, les profs ne savent pas si le directeur a quitté l'hôtel. Dans le doute, ils se tiennent prêts à, ouvrir les guillemets, protéger les élèves.
Alors, selon vos informations, Hélène, une dizaine d'élèves ont fait une déposition à la police. Mais à ce stade, on n'a pas connaissance de plainte, ce qui peut étonner. Les faits à ce stade ne sont pas pénalement qualifiés ?
C'est toute la difficulté de ces procédures. L'enquête suit son cours, nous dit le parquet sans commentaire. En revanche, le directeur, lui, a pris un avocat, et pas n'importe lequel, Antoine Vey, célébrité du barreau de Paris, ancien associé d'Éric Dupond-Moretti, et qui dénonce une cabale contre son client, orchestrée par des profs ou des jeunes, en révolte contre son autorité.
Un lynchage totalement injustifié. Ce monsieur n'a rien à se reprocher sur le terrain pénal. Enfin, on a communiqué à la presse des témoignages qui ne sortent de nulle part. Donc on est à la fois alarmé par la la nature de ce qui est dit, mais surtout aussi par le procédé, puisque nous, jusqu'à la mise au pilori médiatique, on n'a jamais eu le moindre grief qui a été formulé contre ce monsieur. Ça doit quand même conduire à une certaine prudence et à une certaine réserve, ce qui est précisément l'inverse de ce qu'on constate depuis plusieurs semaines.
L'avocat réclame que son client soit entendu par la justice et a déposé plainte contre X pour dénonciation calomnieuse. Déjà que les jeunes ont du mal à parler, là, c'est une pression supplémentaire, souffle un enseignant.
Merci Hélène Roussel pour ces informations. Aujourd'hui, c'est la chanteuse Suzanne qui, dans une chanson intitulée « J'accuse », dénonce les violences sexuelles et sexistes qu'elle affirme pour la première fois avoir subies. Un clip y est associé. La marine française recherche l'un de ses marins disparus en mer depuis hier soir. C'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui l'annonce il y a quelques minutes. Il faisait partie de l'ensemble constitué par le porte-avions Charles de Gaulle et d'autres navires qui l'entourent. Navire qui faisait route vers Toulon. Il a donc disparu en mer Méditerranée, nous dit le ministre. Demander pardon ou pas, c'est l'une des questions qui se pose à la France dans sa relation avec les pays qu'elle a colonisés par le passé. Colonisation marquée par des massacres, ainsi à Madagascar. La répression de l'insurrection de 1947 par l'armée française a fait des dizaines de milliers de morts. Le chef de l'État poursuit à Madagascar sa visite officielle aujourd'hui, visite que vous suivez. Bonjour Elia Bergel.
Bonjour Jérôme.
Tournée dans l'océan Indien du chef de l'État, Emmanuel Macron qui n'a pas demandé pardon ce matin.
Non, pas d'excuse formelle du président. En visite dans un ancien palais de la capitale, Antananarivo, devenu musée, Emmanuel Macron appelle cependant à regarder en face l'histoire commune franco-malgache.
Notre histoire s'inscrit à travers les âges, mais avec des pages éminemment douloureuse.
Référence à la colonisation, aux côtés d'une princesse malgache, Emmanuel Macron évoque ensuite le crâne présumé du roi Toer, tué par des soldats français à la fin du 19e siècle.
Ces restes humains ont leur place ici et pas ailleurs. Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble avec cela? D'abord, permettre que des objets qui avaient été retirés puissent retrouver leur place. Ça ne répare pas les choses. Il n'y a que vous qui pourrez faire ce chemin, qui est aussi un chemin de pardon. Nous en créons les conditions.
Cette relique est pour le moment au Musée de l'Homme à Paris. Elle devait être rendue pendant ce déplacement d'Emmanuel Macron. Première application de la loi de 2023 sur la restitution de restes humains. Côté français, tout est prêt, assure l'Élysée. Mais à Madagascar, des descendants du monarque s'y opposent pour le moment. Entre autres, car le mois d'avril est synonyme de malheur dans les traditions locales.
Reportage Élie Abergel. L'île voisine de Madagascar, l'île française de la Réunion, a été balayée par le cyclone Garance. Fin février, les victimes seront indemnisées à hauteur de 379 millions d'euros. Voilà ce que nous dit ce matin France Assureur qui a recensé 68 000 sinistres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui aussi dans la région, interrompt sa visite en Afrique du Sud. Il rentre en Ukraine après les bombardements russes de la nuit dernière sur la capitale Kiev. Bombardements qui ont fait au moins 8 morts et plus de 70 blessés. Écoutez le témoignage de Tania. Elle est ingénieure. Elle habite un immeuble juste à côté d'un des impacts. Son appartement a été ravagé.
Il y a eu 3 fortes explosions et la moitié de l'appartement a été soufflé. C'était vraiment effrayant. Parfois, on peut imaginer comment ça pourrait se passer. Mais c'était 100 fois pire que tout ce que je pouvais imaginer. Nous avons des amis dans l'immeuble frappé. Nous savons déjà que la moitié de la famille est morte, mais l'autre moitié est toujours recherchée. Autant que je sache, il n'y a ici aucune installation militaire, aucun équipement, rien. Pourquoi ? Je ne peux pas l'expliquer. Personne ne peut l'expliquer.
Témoignage recueilli à Kiev par Stanislas Poyer. Tout cela alors que l'étau diplomatique se resserre autour de l'Ukraine. Ce matin, la Russie dit qu'elle est complètement d'accord avec le président américain Donald Trump quand il dit que l'Ukraine a perdu la péninsule de Crimée il y a des années. Fin de citation. Valérie Crova, on vous retrouve. De fait, les Américains ont un plan de cessez-le-feu en tête. De ce qu'on en sait, il apparaît très déséquilibré entre ce qu'il prévoit pour les Russes et ce qu'il prévoit pour les Ukrainiens.
Oui, il suffit de regarder les détails de ce plan. La Russie garderait le contrôle d'environ 18% du territoire ukrainien. Selon le Financial Times, Vladimir Poutine renoncerait à des secteurs de régions comme Kherson, Zaporijja, Louhansk et Donetsk, officiellement annexés par la Russie. mais que son armée n'est pas parvenue à conquérir en totalité depuis 2022. La centrale nucléaire de Zaporijjia passerait sous contrôle américain et fournirait de l'électricité aussi bien à l'Ukraine qu'à la Russie. Washington reconnaîtrait l'annexion de la Crimée par la Russie, effective depuis 2014, sauf que Volodymyr Zelensky a rappelé hier que la péninsule de Crimée faisait partie intégrante du territoire ukrainien, comme le stipule la constitution ukrainienne. C'est donc un point non négociable pour lui. Kiev renoncerait de son côté à adhérer à l'OTAN, mais pourrait rejoindre l'Union européenne. Des garanties de sécurité pourraient lui être accordées par les Européens et d'autres nations amies sans la participation des États-Unis. Et l'Ukraine recevrait des aides à sa reconstruction. Mais les sanctions contre la Russie adoptées depuis 2014 seraient quant à elles levées et la coopération économique entre Washington et Moscou étendue, en particulier dans l'énergie et l'industrie. En résumé, la Russie aurait tout à gagner. L'Ukraine aura-t-elle les moyens de refuser le diktat de la Maison-Blanche? Le président Zelensky espère rencontrer Donald Trump samedi à Rome, en marge des obsèques du pape.
Volodymyr Zelensky qui dit à l'instant que la Russie cherche à mettre la pression sur les États-Unis avec les bombardements de la nuit dernière. Merci Valérie Krova. Toujours à l'étranger, très très vive, très très forte tension encore ce matin entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde qui ordonne à tous les citoyens pakistanais qui se trouvent sur son sol de quitter le territoire d'ici la fin du mois. Après l'attentat qui a frappé le Cachemire hier et qui a fait 26 morts sur le territoire indien, mais l'Inde attribue cet attentat à son voisin pakistanais et les Pakistanais en réponse menacent l'Inde d'un acte de guerre. Vous utilisez les messageries WhatsApp et Messenger, mais aussi Facebook ou Instagram. Eh bien, Meta est très intéressé par vos données, parce que vous publiez pour alimenter Meta AI, son nouvel outil d'intelligence artificielle. D'ici deux mois, elle va se servir de vos données pour entraîner ses modèles. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Jérôme.
On va voir qu'il est possible pour les utilisateurs de dire non, mais d'abord expliquez-nous de quelles données il s'agit et à quoi elles vont servir.
Oui, en clair, tout ce que vous posterez sur Facebook, Instagram, tout ce que vous avez posté, vos statuts, les commentaires sous les photos, ce qui est écrit dans des groupes, sur les pages de vos amis, votre nom d'utilisateur, votre photo de profil, tout ça va servir à entraîner les systèmes de Meta pour avoir, promet l'entreprise, une IA plus efficace. Elle va aussi évidemment utiliser les échanges avec son robot conversationnel déployé depuis quelques semaines dans ses applications. Il apparaît à l'écran sous la forme d'un rond bleu-violet. Ce qui ne sera pas utilisé pour entraîner cette IA, les contenus des comptes d'utilisateurs mineurs et ce qui se dit dans les messageries privées, comme ce qu'on peut se dire entre vous et moi, Jérôme, dans notre messagerie.
Dans une messagerie. Mais il est possible de s'y opposer.
Oui, et Meta l'indique assez clairement dans le message de consentement qu'elle a envoyé à ses utilisateurs. Un peu moins clair, le formulaire pour s'y opposer, il faut d'ailleurs le remplir pour chaque plateforme, une fois pour Facebook, une fois pour Instagram, une fois pour Thread. Nous honorerons votre objection, répond alors la plateforme. On a environ un mois pour le faire. Passé ce délai, Meta considérera que vous êtes automatiquement d'accord, et elle en a le droit. Attention enfin, ce qui aurait pu être publié sur vous, mais par d'autres utilisateurs qui n'auraient pas fait la même démarche de refus, ces contenus-là pourront être utilisés par la plateforme.
Merci Xavier Demani. Nous serons dans un instant avec la directrice générale des Gîtes de France. Vous êtes peut-être en train de préparer vos réservations pour cet été. Nous verrons quelle est la tendance. Mais dans le sud-ouest, les professionnels du tourisme espèrent que la météo de ces derniers jours ne va pas gâcher la saison. Ainsi, en Dordogne, au camping de Saint-Astier, les mobilhomes ont souffert des crues et des inondations. Reportage Gwendoline Langlois.
Sur les 25 mobilhomes du camping, une dizaine a été infiltrée par la crue. L'eau n'est pas encore totalement évacuée. On patauge par endroits.
Ça aurait pu être bien pire. Moi, je m'attendais à trouver des troncs d'arbres de partout, des choses comme ça.
Maintenant que la décrue est entamée, Luc Holter, responsable du site, liste les dégâts.
Là, on a quand même une terrasse qui est décalée de 3 mètres. Hein. Elle a bougé avec l'eau. Elle n'est plus en face de son mobilhome.
Dans celui de Colette, l'eau est montée jusqu'à 10 cm au-dessus du parquet. Elle est venue récupérer quelques affaires complètement trempées, laissées sur place au moment de l'évacuation.
On a débarrassé une somme, mais qui est inondée. On a réuni tous nos vêtements qui était resté, le frigidaire.
Tout autour d'elle, dans les autres locations de vacances, l'humidité est palpable, même dans celles qui n'ont pas été inondées. Il faudra attendre le retour du beau temps pour chiffrer les dégradations.
Parce qu'il y a des choses qui visuellement aujourd'hui paraissent bien, mais qui sont moins jolies dans quelques jours. Qui dit humidité dit gonflement du bois et éventuelle moisissure.
Et dans les mobilhomes et cabanes sur pilotis qui ont résisté aux intempéries, il y aura aussi beaucoup de nettoyage et de la manutention autour pour pouvoir accueillir au mieux les vacanciers. Le gérant va tout faire pour pouvoir sauver un maximum de réservations. Ce week-end, il était quasiment complet.
Reportage ici Périgord. Et puis, c'est d'ores et déjà la fin de saison pour le milieu de terrain de l'équipe de football du Real Madrid et de l'équipe de France, Eduardo Camavinga, victime d'une rupture du tendon de l'adducteur gauche. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, en cette pleine période de vacances scolaires, nous parlons du marché de l'hébergement touristique avec Gîtes de France. 70 ans cette année, sa directrice générale est notre invitée. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages sur votre mode de vacances. Par exemple, êtes-vous séduit par les gîtes? Venez nous le dire. 13h45, notre feuilleton l'invite d'un cavalier de haut niveau et de sa monture. Vous verrez qu'il passe beaucoup de temps sur les routes. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marilus Ribaud et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Marilus, on mange de moins en moins de viande de bœuf en France.
Oui, c'est ce que souligne un récent sondage sur la viande de bœuf qui ne fait que confirmer ce long déclin pour les protéines animales, de près de 6% en 20 ans. Ces enquêtes révèlent aussi des changements profonds. On se soucie de plus en plus des conditions d'élevage et de la provenance des bêtes que l'on consomme.
Et avec vous Frédéric, un politologue.
Clément Viktorovitch, qui joue en ce moment son seul en scène, L'art de ne pas dire, à la fois en tournée et au 13e art à Paris. Avec lui, nous écouterons le rappeur Orelsan et le morceau Note pour plus tard, qu'il considère comme l'une des plus belles choses écrites en français ces dernières années.
Carrément.
Mais oui.
Il nous dira pourquoi. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
France Inter présente
le podcast France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Thomas Negaroff.
Près de deux siècles après la conquête de l'Algérie par la France et 62 ans après la décolonisation, les relations entre la France et l'Algérie demeurent à vif, les mémoires tourmentées et instrumentalisées. Quelle est l'histoire des relations entre la France et l'Algérie? L'histoire d'une plaie impossible à cicatriser? Une série en 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Benjamin Stora.
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Préfond, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfond.fr.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore beaucoup de nuages et moins d'averses.
Oui, alors sur le nord-est, en effet, on a un ciel encore bien nuageux, même très nuageux cet après-midi, avec des averses, certainement plus nombreuses des Ardennes à l'Alsace. Sur les autres régions du nord jusqu'au sud-ouest, au Massif central, au nord de Rhône-Alpes, pas mal de nuages aussi, parfois une rare ondée. Quelques éclaircies appréciables de temps en temps, un peu plus belles du Cotentin à la Côte d'Opale et près des Pyrénées dans l'après-midi. Quelques averses de neige toujours possibles au-dessus de 1700 mètres sur le nord des Alpes. La vigilance orange crue persiste sur la Charente-Maritime et la Gironde, la situation s'améliore lentement. Oui. Et puis, pour avoir un soleil généreux, direction la Méditerranée, au prix du vent, 60 à 70 km à l'heure. Les températures ne changent pas beaucoup, 13 à 18 degrés le plus souvent, jusqu'à 20 à 23 près de la Méditerranée. Demain, du soleil au sud, après les brouillards matinaux, plus de nuages au nord, mais seulement quelques averses sur l'Alsace jusqu'au Jura.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, de 13-14, Jérôme Cadet.
Qui va tirer son épingle du jeu dans la bataille pour l'hébergement des touristes cette année en France, et notamment ce printemps avec des ponts à répétition et favorables au départ. Alors on connaît les gros bras du secteur, Booking, Airbnb, Abritel, mais il y a un autre acteur avec un autre modèle qui résiste, c'est Gîtes de France qui fête cette année ses 70 ans. Bonjour Solange Escure.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Merci d'être avec nous. Vous en êtes la directrice générale. Oui. Gîtes de France, 55 000 logements proposés à la location sur les 2 millions que compte le marché français. Pour comparaison, Airbnb, c'est 400 000, par exemple, donc 8 fois plus. 26 millions de nuitées pour vous en France en 2023. On va parler de ce modèle, de la concurrence des autres, loyale, déloyale, vous nous direz, et puis de la saison 2025 qui s'annonce. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. Et vous, quel hébergement est-ce que vous privilégiez quand vous partez en vacances ou en week-end? Venez nous le dire. Vous passez aussi via l'application France Inter. Je précise qu'on retrouvera aussi dans quelques minutes l'une de vos adhérentes qui est installée dans le département des Landes. D'abord, je voudrais qu'on accueille Jacques qui nous appelle de Nancy. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, voilà.
Comment est-ce que vous réservez? Vous passez par Gîtes de France?
Oui, j'ai été un utilisateur régulier de Gîtes de France, à ma grande satisfaction, sauf sur un point. Ah. Ce point-là, c'est le problème de la rigidité des dates de location. C'est très majoritairement du samedi au samedi. Or, ben, quand on habite le nord-est de la France, qu'on veut aller dans le Pays Basque, il faut partir la veille ou alors il faut dormir à l'hôtel sur la route. Hein.
Donc vous ne voulez pas réserver cette nuit, vous voulez réserver un peu moins?
Voilà, donc du coup, c'est vrai, je me suis tourné un peu vers la concurrence Airbnb, qui est beaucoup plus souple en termes de date de réservation. On vient de réserver 3 jours au mois de juillet en Champagne. Bon, par Gîtes de France, c'était pas possible, par exemple. Donc ma question, c'est surtout, est-ce que Gîtes de France envisage de mettre un peu de souplesse pour leurs clients dans les dates de réservation?
Merci Jacques pour votre témoignage et cette question. Solange Escure, c'est pas la qualité, nous dit Jacques, qui est en cause, mais vous êtes trop rigide.
Bonjour Jacques. Eh bien en fait, nous avons fortement évolué et nos propriétaires s'adaptent en permanence et nous avons de plus en plus de propriétaires qui acceptent les courts séjours. Donc Jacques, je vous invite à renouveler un séjour chez Gîtes de France sur un court séjour.
Ça a été un travail que vous avez fait avec les propriétaires pour les convaincre?
Oui.
Comment est-ce que vous avez fait?
Alors, tout simplement, lorsqu'il y a de la concurrence, ça nous oblige à nous remettre en question et à être meilleurs. Donc, on échange beaucoup avec nos propriétaires. C'est aussi la spécificité de Gîtes de France, d'accompagner les propriétaires et de répondre en permanence à la demande des vacanciers. Donc oui, nos propriétaires ont adapté leur façon de fonctionner. Et donc, les courts séjours sont possibles chez Gîtes de France.
Vous savez quelle proportion des logements acceptent les courts séjours sur les 55 000 que vous proposez, Solange Escure, les séjours de moins d'une semaine, si je puis dire?
Oui, bien sûr. À date, c'est pratiquement la totalité des hébergements.
Quasiment dans tous les hébergements, on peut réserver moins d'une semaine. Vous parlez des propriétaires, on est en ligne avec Alice Laplace. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes propriétaire d'une maison d'hôte dans les Landes. Vous nous dites où vous êtes dans les Landes?
Oui, tout à fait. Donc, j'habite à Aulnay-sous-Laharie, pour vous situer 20 minutes de l'océan.
D'accord.
Au nord des Landes.
Au nord des Landes. Est-ce que vous prenez aussi des courts séjours? C'est la question que Jacques posait à l'instant.
Tout à fait. Tout à fait. Je prends également des courts séjours. Donc, pas obligation d'être à la semaine.
C'est une contrainte supplémentaire?
Écoutez, oui, ça peut être. Alors, je ne prends pas en gîte à la nuitée, bien entendu. Ouais. Ça, c'est plutôt pour la chambre d'hôte. Mais en gîte, un minimum de 3 nuits. Donc, 3 nuits, ça va, en termes d'organisation.
Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre, par exemple, Gîtes de France et pas une autre plateforme? Tout à l'heure, Jacques a parlé d'Airbnb, j'en ai cité d'autres.
Oui, tout à fait. Alors, moi, au démarrage, pourquoi je choisis ce label? Parce que pour moi, c'est une référence quand même, Gîtes de France. C'est un vrai gage de qualité, avec une histoire assez forte. Pour la petite histoire, donc 70 ans pour Gîtes de France, qui a été créé de base pour des agriculteurs, par les agriculteurs.
Ce qui est votre cas?
Et moi, voilà, ouais. J'allais vous dire, mon conjoint est agriculteur. Donc, pour moi, ça faisait sens d'aller vers ce label qui est vraiment authentique, qui prône le confort, le territoire. Voilà.
Donc, c'est une partie de votre ferme, en fait, que vous louez, c'est ça, Alice?
Non, alors nous, on habite sur ce qu'on appelle un aérial landais. Donc, c'est typique de la région. Et du coup, vous êtes en plein cœur de notre famille quand vous venez dans notre gîte chambre d'hôte. Donc, nous ne sommes pas mariés, mais donc mon conjoint a ses engins agricoles, mais il n'a pas ses champs à côté de la maison.
Est-ce que vous-même, vous partiez en vacances avec Gîtes de France ou est-ce que vous l'avez découvert comme propriétaire?
Alors, je ne partais pas en réservant par Gîtes de France, mais je regardais quels étaient les labels, enfin les classifications, tout ce qui est épi, parce que vraiment, il y a une vraie exigence sur la qualité. Donc, pour moi, la classification Gîtes de France est hyper importante.
Justement, Solange Escure, est-ce qu'on peut devenir Gîtes de France en s'inscrivant sur le site, mettant des photos, comme ça se passe avec d'autres plateformes, mettant des photos de son logement, on fixe les prix et hop, c'est parti, on est logement Gîtes de France. Comment ça se passe?
Non, ce n'est pas le métier qui est fait chez Gîtes de France. En fait, nous, chez nous, on ne dépose pas une annonce. Il y a 600 collaborateurs répartis sur l'ensemble des départements, donc qui vivent dans les territoires et qui vont visiter chaque maison, chaque hébergement
avant
qui peut rejoindre la marque, bien sûr. Donc, soit ce sont des bâtiments qui sont à rénover, soit ce sont des maisons ou des chambres qui sont déjà mises en location et le propriétaire vient chercher la marque. Mais en tout cas, il y a une visite sur place.
Est-ce qu'il y a des contrôles réguliers après ?
Et un suivi qualité régulier.
Ça veut dire quoi, régulier ?
Régulier, c'est au maximum tous les 5 ans.
Au maximum tous les 5 ans. Et entre-temps, on peut laisser des avis, on peut consulter les avis des autres voyageurs pour voir si ça s'est bien passé ?
Donc, les vacanciers sont invités à émettre un avis, mais il faut avoir séjourné pour émettre un avis. On ne peut pas comme ça déposer un avis pour se faire plaisir ou pas. Donc, il faut vraiment avoir séjourné dans l'hébergement et dès le lendemain, vous recevez l'invitation à déposer un avis. C'est ce qui fait notre force également parce qu'il y a 97% de taux de recommandation et la moyenne des avis clients, elle est à 4,7 sur 5. Donc, ce qui montre la satisfaction des vacanciers.
Question de Laure de Grasse via l'application France Inter. Je me suis inscrite sur le Gîte de France au début des années 2000, mais je n'ai eu aucune réservation car mon gîte apparaissait sur le site comme n'ayant pas de chambre. C'était en effet une mezzanine. Est-ce que vous avez changé vos critères ? Voilà une question précise pour vous, Solange Escure.
Alors, nous pouvons tout à fait agréer les studios. Je pense que c'était un peu plus qu'une mezzanine. Donc oui, c'est possible d'agréer un studio dans une maison.
Mais l'essentiel des offres concerne des zones rurales. Vous êtes plutôt implanté à la campagne. Tradition agricole, nous disait Alice Laplace à l'instant.
Exactement. 84% de nos hébergements sont implantés en milieu rural et le reste donc en milieu urbain ou périurbain. Donc on est présent sur l'ensemble du territoire.
Et vous avez vu arriver, notamment depuis l'épisode du Covid, la concurrence dans ces zones rurales des plateformes dont je parlais à l'instant, qui sont développées partout dans le pays. Vous jugez cette concurrence loyale ou déloyale ?
Alors, cette concurrence, elle nous fait grandir et elle nous fait avancer. Et vous parliez du Covid. Depuis le Covid, on n'a jamais eu autant de porteurs de projets qui veulent rejoindre Gîtes de France et on n'a jamais eu autant de vacanciers qui consommaient Gîtes de France. Donc, cette place à part que nous occupons dans le paysage touristique français, elle a de plus en plus de sens et pour les propriétaires et pour les vacanciers.
Quelle est la moyenne d'âge, est-ce que vous le savez, des voyageurs qui viennent chez Gîtes de France ?
Alors, pendant les vacances scolaires, on va être sur des familles avec des enfants scolarisés. Ensuite, sur les différentes périodes, on va avoir des groupes, des couples. Et donc, on touche toutes les catégories, tous les âges, toutes les tranches d'âge. Et depuis 5 ans, donc les jeunes viennent de plus en plus chez Gîtes de France parce que nous communiquons sur les réseaux sociaux. Donc, notre cible actuellement, c'est bien les jeunes.
Ça, c'est un gros enjeu pour vous. Il n'y a pas d'application Gîtes de France, par exemple.
Elle viendra très bientôt.
Voilà, il n'y a pas d'application Gîtes de France. Donc, pour tous ceux qui ont l'habitude de réserver avec une application, il faut uniquement passer par le site internet.
Oui, mais les réservations se font en majorité sur les smartphones, en fait. Et donc, ça ne bloque pas la réservation du tout.
Alice Laplace, quel est le profil des gens qui viennent séjourner chez vous au cœur des Landes ?
Alors, moi, j'ai de tout profil. Donc, ça va de très jeune, on va dire entre 20-30 ans, jusqu'à 80 ans, en couple, en famille, avec des jeunes enfants, puisque ma maison n'est pas très adaptée, on va dire, à une famille avec plusieurs enfants. Mais voilà, en gros, j'ai vraiment de tout profil. Couple, jeune, moins jeune et des familles.
Et comment est-ce qu'ils réservent ?
Alors, moi, ils réservent par le site Gîtes de France.
Ouais.
Et quand ça arrive, quand des gens veulent avoir des renseignements supplémentaires, donc via Gîtes de France, ils ont mes coordonnées. Et donc là, c'est moi du coup qui leur répond et je rentre sur mon interface Gîtes de France et je saisis la réservation moi-même. Ou alors Perrine, donc qui s'occupe de ma maison, prend pour moi mes réservations si ça passe directement par Gîtes de France.
Je peux vous demander votre âge, Alice ?
36 ans.
36 ans, est-ce que
oui.
C'est un profil Solange Escure classique ou elle a un âge beaucoup plus jeune, Alice, que la moyenne des propriétaires ? L'un des enjeux, c'est aussi de rajeunir la moyenne d'âge des propriétaires.
Eh bien, c'est l'âge où on décide d'investir dans un projet touristique à partir de 35-40 ans. Quand on est plus jeune, on a d'autres investissements à réaliser. Mais oui, en fait, à partir de 35 jusqu'à 70, 75, en fait, il faut déjà avoir un bien à mettre en location, mais toutes les tranches d'âge et de plus en plus de jeunes qui habitent dans les territoires et qui souhaitent avoir une activité tourisme.
Comment vous faites pour rajeunir justement l'âge moyen de vos propriétaires ?
Par nos communications, on fait des opérations porteurs de projets. Donc on a des journées portes ouvertes dans les départements. Parce que ça aussi, c'est notre force, hein, d'avoir cette implantation locale avec des propriétaires et des collaborateurs qui vivent dans les territoires. Donc communication auprès des porteurs de projets.
Vous parliez d'une application, Gîtes de France, qui sera bientôt disponible ?
Oui, tout à fait.
Ça nécessite des investissements. Vous n'avez pas autant d'argent disponible que les grands groupes dont j'ai parlé. Comment est-ce que vous y prenez ?
On fait différemment, en fait. Et le financement de toutes les actions qui se font chez Gîtes de France, elles viennent des propriétaires via les structures départementales.
L'objectif, c'est aussi, je suppose, d'aller chercher une clientèle étrangère. Davantage. Là, on est en période scolaire, alors évidemment, la clientèle est peut-être plutôt française. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher la clientèle à l'étranger quand on a peut-être moins de notoriété quand on s'appelle Gîtes de France en dehors de nos frontières ?
Actuellement, c'est 12% de nos vacanciers qui viennent donc plutôt de la zone Europe. Et bien, tout simplement, on investit sur des achats de mots-clés dans différents pays, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Voilà.
Alice Laplace, est-ce que vous pouvez mettre votre hébergement sur d'autres plateformes ? Ou est-ce qu'il y a une exclusivité avec Gîtes de France ? Comment ça se passe ?
Non, pas du tout. J'ai le droit si je le veux, mais c'est un souhait de ne pas vouloir aller ailleurs. Au démarrage, parce que le temps que la maison se mette en route, je me suis mise sur Booking, ouais. mais c'est tout, ça s'arrêtera là. Et la maison, de toute façon, je fais en sorte de pouvoir la bloquer plus sur Booking que par Gîtes de France, parce que je préfère garder la main, comme on dit.
Ne pas être. Ça veut dire quoi garder la main ? Ça veut dire donner votre avis sur qui vient, c'est ça ?
Alors, pas forcément, mais la clientèle Booking, alors effectivement, j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur la clientèle étrangère, où ça peut être peut-être plus facile, mais le client Booking recherche plutôt un hôtel où pas forcément, je trouve, le charme et l'authenticité d'une maison en Gîtes de France, qui pour moi est hyper important. Et du coup, on a directement le contact client en passant par Gîtes de France, contrairement par Booking, qui vous bloque les accès mail, qui vous bloque les accès contact.
Sylvie est en ligne avec nous. Bonjour Sylvie.
Bonjour monsieur.
Vous avez utilisé Gîtes de France, je crois. Vous aviez une précision, une demande à faire pour Solange Escure.
Exactement. Donc j'ai réservé les Gîtes de France 15 jours en Ardèche à l'automne. Le gîte en question ne correspondait pas à sa description. J'y suis donc restée une nuit. J'ai informé aussi bien l'Ardèche que Paris. Paris s'est rabattu sur l'Ardèche en disant « on ne peut rien, on n'a pas de pouvoir ». Et ils m'ont absolument interdit de déposer un commentaire sur cet hébergement qui donc a 5 sur 5, ce qui ne correspond donc à rien du tout.
Bon, vous n'avez pas pu laisser de commentaire, c'est ce que vous nous dites.
C'est interdit, oui, ils n'ont pas voulu.
Solange Escure, est-ce que ça peut arriver, ce type de cas que nous décrit Sylvie ?
Bien sûr, et c'est aussi la force de Gîtes de France, c'est que comme il y a une agence dans chaque département, on peut intervenir à n'importe quel moment pour échanger avec le vacancier, aller visiter l'hébergement s'il y a une difficulté rencontrée, éventuellement reloger le vacancier. Donc oui, bien sûr que nous intervenons dès qu'il y a la moindre difficulté.
Mais vous pouvez bloquer un commentaire, comme ça a été son cas aussi, c'est ce qu'elle nous dit.
Ça ne doit pas être bloqué.
Normalement, ça ne doit pas être bloqué. Et quand il y a un signalement, il y a une visite derrière qui doit être faite dans le logement ?
Exactement.
D'un mot, comment s'annonce la saison ?
Elle s'annonce
2025.
Très, très bonne.
Est-ce que vous avez un taux de réservation à nous communiquer ?
Alors, pour les vacances d'été, on est déjà à des taux d'occupation, des taux de réservation autour de 60%. Et ça va se remplir au fur et à mesure des semaines jusqu'aux vacances de juillet-août.
Merci Solange Escure, directrice générale de Gîtes de France, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci également à Alice Laplace depuis le département des Landes de s'être rendue disponible 13h47 sur Inter. Une semaine dans la vie de l'un des meilleurs cavaliers français, Cédric Hurel, et de sa monture, Fantasio. Il participe cette semaine au printemps des sports équestres à Fontainebleau, près de Paris. C'est l'un des plus grands événements hippiques en France. Mais la compétition, ce n'est qu'une petite partie de leur vie, car cavalier comme cheval passe beaucoup de temps sur la route. Visite du camion dans ce troisième épisode avec Emma Sarango.
Ça, c'est mon camion de chevaux qui est...
Énorme.
Enfin, il est costaud, mais il n'est pas non plus énorme. Je peux mettre 6 chevaux et la partie appartement où on dort dedans. Donc, ouais, la taille, c'est à peu près 12 mètres. et les chevaux sont en travers comme ça, ils voyagent mieux comme ça en travers, ils sont mieux calés que s'ils étaient dans le sens de la route. Je peux ouvrir hein, si vous voulez, mais alors j'ai deux ouvertures, une sur le côté et j'ai une ouverture par derrière où c'est pour les chevaux. On appelle ça un pont. Les chevaux montent très bien dedans.
C'est des mini-box, quoi.
Ouais, on peut appeler ça des stalles.
C'est quoi votre rythme, Cédric, votre vie sur des semaines et des semaines ?
Sur des semaines et des semaines, c'est lundi, mardi, c'est aux écuries pour travailler les chevaux qui vont au concours à partir du mercredi. Mercredi, la route. Faire entre 2h, 3h, 5h, 6h ou plus de route. Si c'est plus de 6-7 heures, je fais une étape. Pour, par exemple, de temps en temps, on va à Saint-Tropez. Il y a des concours à côté de Saint-Tropez, à Gassin. Et à ce moment-là, moi, je m'arrête à côté de Lyon, prendre une écurie de transit pour repartir le lendemain, pour pas que ça fasse trop de route pour les chevaux successives. Et du coup, ils se reposent, ils mangent. Parce que sur la route, on leur donne que du foin. Et sinon, le reste de la semaine, c'est la compétition. La compétition, on arrive le mercredi, là, ça commence le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche soir, on revient tard et on recommence le lundi matin. Toutes les semaines, c'est à peu près ça. De début février à mi-décembre. Je tiens à signaler, c'est pas forcément les mêmes chevaux qui font tous les week-ends. Hein, je fais un roulement, c'est comme on a entre 15 et 18 chevaux, je fais un roulement. Un programme par cheval dans le mois où il va faire généralement que deux compétitions par mois.
Vous dites nous parce que vous partez toujours avec votre femme.
Ouais.
Ah bah c'est une vie complètement nomade. Hein. On est des mais c'est génial. Enfin j'ai limite plus d'affaires de fringues dans mon camion. Le dernier coup je cherchais une paire de chaussures. Cédric était dans le camion et je dis tu sais si j'ai une paire de chaussures dans le camion il me dit ouais une paire, deux paires, trois paires, quatre paires, cinq paires. Je dis oh yo 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 yo. C'est notre vie en fait dedans. Limite, moi, je dors mieux dans mon camion qu'à la maison. J'adore.
Et donc là, on a la partie appartement, c'est ça ?
Voilà. La partie appartement, qui est où on a tout. On a salle de bain, couchette là, télé, frigo, évier. Tout ce qu'il faut pour voyager et loger sur les concours.
Pour vous, c'est important d'en faire parce que c'est votre gagne-pain, en fait, les
gars. Ah, c'est mon gagne-pain, totalement. Et c'est mon gagne-pain de faire de la compétition parce que déjà, il y a des gains. Faire de la compétition, ça coûte de plus en plus cher parce que les frais de route, on sait bien que l'essence n'est pas donnée aujourd'hui. Le péage, c'est pareil parce qu'avec un camion comme ça, on est en classe 4 avec une petite remorque pour le matériel. Des engagements en concours coûtent de plus en plus cher parce que moi, je fais principalement des CSI, donc des internationaux. Donc, c'est un forfait pour le week-end par cheval. Donc, de temps en temps, ça ne marche pas, mais on va se rattraper sur le concours d'après. Donc, c'est une chaîne. Donc, il faut vraiment gagner en concours pour pouvoir rentabiliser un minimum et gagner en plus.
Emma Sarango pour ce feuilleton réalisation. Stéphane Ronxin.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h51 le jeudi. Nous parlons gastronomie avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Marilus, un sondage récent sur la consommation de viande vous a interpellé.
Oui Jérôme, selon cette enquête révélée jeudi dernier et menée pour une célèbre marque de bœuf, nous sommes 53% à avoir diminué notre consommation de steak haché et autres bavettes. Moi qui croyais que le burger emportait tout sur son passage, voilà que non seulement nous mangeons moins souvent du bœuf, mais qu'en plus nous avons diminué les quantités dans nos assiettes.
Quelles en sont les raisons ?
La première est, on peut le comprendre, économique. Mais ce sondage révèle des changements bien plus profonds. Un répondant sur deux choisit d'en manger moins, mais de meilleure qualité. Et chez les 18-25 ans, la moitié a diminué sa consommation de bœuf en raison des conditions d'élevage et de la pollution que cette production génère. Bye bye les viandards, un autre monde serait donc possible.
Mais quel monde ?
Il ne s'agit pas de basculer dans le 100% veggie. Mais citons cette autre étude conduite pour le réseau Action Climat le mois dernier. Un tiers des Français qui envisagent de diminuer leur consommation de viande, on ne parle pas ici que du bœuf, le ferait en grande majorité pour réduire les importations et soutenir une production d'élevage aux pratiques durables. Ce monde-là est-il utopique ? De moins en moins, selon Louise Barrault, qui vient de diriger l'élevage en liberté, une autre voie entre industrie et véganisme. Un ouvrage collectif rassemblant une trentaine de sociologues, de chercheurs, de paysans, de bouchers et de cuisiniers. Se consultant sur la transition Commission alimentaire, membre du réseau Slow Food, propose de sortir du débat stérile entre irréductibles végétariens et méchants éleveurs, d'ailleurs de moins en moins nombreux. D'abord, nous dit-il, il ne faut pas oublier que nous avons en France des filières d'élevage de qualité, souvent acquises au slogan « mangez-en moins, mangez-en mieux ». Mais face à tous ces éleveurs respectueux de leurs bêtes et qui font entendre leur voix, il y a ce que je nommerais une filière désincarnée de la viande, celle des aliments ultra-transformés. Mmh. C'est ce marché de la protéine animale qui nous éloigne de la connaissance du vivant. En quelque sorte, ainsi que l'écrit la journaliste Anne Chemin dans ce livre, nous avons désanimalisé la viande.
Ce que tentent d'ailleurs de combattre certains cuisiniers.
Oui, prenons Pablo Jacob, 35 ans, chef à Saint-Julien-le-Faucon près de Lisieux dans le Calvados. La viande est un gigantesque problème car nous gaspillons globalement 75% d'une bête. Dans la plupart des restaurants, on commande aux fournisseurs les beaux morceaux sans se soucier de ce qu'il advient du reste. C'est pour cela que j'ai décidé de me fournir de pièces dans leur intégralité et de les découper. Dans un porc, il n'y a que deux filets mignons. Ils sont chez moi un seul jour à la carte et ensuite, je fais des terrines, des ragoûts, des saucisses et même de délicieuses couennes soufflées.
Et donc Pablo Jacob applique ce principe dans la recette que vous nous proposez, Marie-Luce.
Oui, c'est parti pour une salade libanaise. Mélangez 100 g de mesclun, un petit fenouil débité à la mandoline, avec toutes les herbes aromatiques dont vous avez envie. Réalisez une sauce à l'ail avec 3 gousses blanchies portées à ébullition, émulsionnées au blender avec un blanc d'œuf, du sel, du poivre. Ajoutez 30 g d'huile neutre, comme on fait une mayonnaise, et puis aussi un jus de citron. Faites mariner 120 g de foie et cœur de volaille, de veau ou d'agneau coupé en morceaux, dans 2 cuillères à soupe de cette sauce. Faites sauter 2 minutes les abats, ajoutez 4 asperges vertes et 2 cébettes débitées, 20 g d'amandes, les cubes de 2 tranches de pain rassis préalablement dorées, avec de l'huile d'olive et de l'origan. Déglacez la poêle avec un peu de jus de citron et puis mélangez tout ce petit monde. Voici la viande et les végétaux réunis en une parfaite harmonie. Et déguster tant que c'est tiède.
Eh bien, Frédéric Pommier a pris des notes, donc il va nous préparer tout ça pour ce soir. Merci Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Frédéric, de C'est la France à C'est une chanson. C'est un politologue que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Clément Viktorovitch.
Politologue devenu chroniqueur sur différentes chaînes, notamment dans l'émission Clic sur Canal+, et dans l'émission Quotidien sur TMC. On a pu l'entendre également sur France Info. Et on peut le voir actuellement sur la scène du 13e art à Paris. Son spectacle s'appelle « L'art de ne pas dire ». Et c'est d'un titre d'Orelsan qu'il m'a parlé, le morceau « Note pour trop tard ».
Pour moi, c'est un peu un choc. Déjà d'une part parce que ça a été ma porte de réentrée dans le rap. J'écoutais du rap quand j'étais adolescent. J'ai grandi dans les années 90, donc au moment du sacre de IAM, d'MC Solar, de 113. C'est les groupes de mon adolescence. Et puis, c'est un genre musical avec lequel j'avais perdu contact pendant des années et des années. Et c'est un texte d'Orelsan, l'un de ses plus connus, c'est Suicide Social, qui m'a fait réentrer dans le rap. Ça a été ma porte de réentrée. Et aujourd'hui, c'est un genre musical que j'écoute énormément. Et le morceau dont on parle aujourd'hui, Note pour trop tard, c'est pour moi une des plus belles choses qui a été écrite en langue française depuis ces dernières années. Je trouve que c'est un texte magnifique.
Il est magnifique pour quelle raison, de votre point de vue ?
Il est magnifique déjà par sa simplicité. Et quand on connaît un peu la discographie d'Orelsan, on se rend compte que c'est un rappeur qui, dans sa jeunesse, comme souvent les musiciens d'ailleurs, a voulu prouver sa valeur, ses compétences. Donc c'est quelqu'un qui rappait très vite, avec des structures de rimes parfois complexes, qui voulait montrer qu'il était un vrai rappeur et qu'il avait fait le travail technique derrière. Et puis qui a épuré, au fond, progressivement, année après année, pour aller vers une forme de simplicité, de justesse. Et pour moi, ce texte, c'est cela. C'est un texte qui est très simple. Et en même temps, chaque mot est à sa place, chacun vibre, tout est simple et en même temps tout est beau, lumineux, et en réalité la vraie complexité elle est là, je trouve.
Ok. J'avais ton âge, y'a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y'a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute. J'ai pris quelques notes.
C'est en 2017 qu'est sorti ce morceau d'Orelsan, Frédéric.
Oui, sur son troisième album, La Fête est finie. Ce morceau, c'est le dernier album, le dernier de l'album, et le préféré de Clément Viktorovitch.
Alors sur le papier, c'est Aurel San qui s'adresse à celui qu'il était adolescent pour lui prodiguer les conseils qu'il aurait aimé entendre, j'imagine. Ça, c'est le pitch du morceau. Et en réalité, plus on avance, plus on se rend compte que ça va plus loin que cela et qu'en réalité, la frontière se brouille très rapidement. Est-ce qu'il se parle au lui d'hier? Est-ce qu'il se parle au lui d'aujourd'hui? Et on bascule dans une vraie réflexion métaphysique, tout simplement, sur ce que c'est qu'être un être humain. Et à travers ce projet d'écriture-là, j'ai l'impression qu'il touche une forme d'universalité. En ce que, moi, quand j'ai entendu le texte, alors pas toutes les rimes, évidemment, tout ne touche pas juste pour tout le monde, mais moi, il y a toute une partie de ce texte où j'ai l'impression qu'il était en train de raconter ma vie, raconter plus que ma vie, raconter mes états d'âme, raconter mes douleurs intérieures, raconter mes frustrations, mes humiliations parfois, celles dont on n'a jamais fait part et que lui exprime dans ce texte, et j'avais vraiment l'impression de m'entendre rapper. Et ça, le moment où un artiste, en parlant de lui, réussit en fait à parler à tout le monde, et au-delà de ça, à parler de tout le monde, c'est là où on confine au génie, y compris dans des phrases, des choses qui sont dites, qui sont extrêmement simples et qui, en même temps, réussissent à toucher au cœur celles et ceux qui les écoutent.
On dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier, c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui n'ont pas confiance en eux. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux.
Quand on entend un morceau où on a l'impression que le chanteur est en train de raconter notre vie, ça veut dire qu'on se sent moins seul aussi quand on l'écoute ?
Oui, il y a de cela, c'est vrai, il y a de cela le plaisir de se découvrir faire partie d'un commun. Et elle est là quelque part aussi, la pommade sur le vague à l'âme et les blessures du passé ou du présent, d'ailleurs, de se dire bon, ok, d'accord, à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose de difficile, mais au fond, c'est notre lot commun, j'effectue mon parcours d'humain, j'avance dans la vie en me prenant les murs qu'au fond, on se prend tous et toutes. Et voilà, c'est comme ça, l'histoire continue et en se sentant un peu moins seul, peut-être en effet qu'on arrive à avancer un peu mieux ou du moins un peu plus légèrement.
Tu verras des gens heureux prendre un appel, leur visage se décompose et rien n'est plus jamais pareil. Y'a rien à faire à part être présent, panser les plaies, changer les pansements, le seul remède c'est le temps.
Note pour trop tard, Aurel San. C'était donc, Frédéric, le choix du politologue Clément Viktorovitch.
Il donne pour quelque soir encore l'art de ne pas dire, seul en scène, qu'il joue au 13e art à Paris, mais aussi en tournée. Il sera ce soir à Dijon, demain à Mulhouse et samedi à Épinal.
Merci Frédéric et à demain.